Bien, donc c'est moi qui suis de message, je vais enchaîner. Et comme je l'ai souvent dit en introduction de culte, toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est là pour nous instruire, pour nous corriger si nécessaire. Donc, il y a cette visée pédagogique qu'on doit chercher aussi quand on lit la parole, et premièrement pour nous. Et donc là, on a les fêtes de l'Éternel, les fêtes bibliques, les fêtes d'automne qui se profilent, hein, qui ont commencé déjà demain soir. Et la question justement à se poser par rapport à ce calendrier de Dieu, c'est quelle est la visée pédagogique de ces fêtes qui arrivent? Quelle est la visée pédagogique pour moi-même, pour mon propre monde intérieur? Vous savez que donc le Shabbat, par exemple, il est fait pour l'homme, pour que l'homme puisse notamment se reposer. Et moi, j'ai envie de dire que les premières fêtes d'automne, elles sont là pour nous aider à nous poser. Nous poser et à poser les choses devant lui. Donc, plus concrètement, ça vous le savez, donc il y a la fête des chauffards qui se profile. Donc dans la tradition juive, on ne parle plus de la fête des chauffards, mais de Rosh Hashanah, donc littéralement la tête de l'année, le nouvel an. Et ensuite, après la fête des chauffards, on a ce qu'on appelle les 10 jours, donc c'est qu'on appelle aussi les 10 jours d'adoration mêlée de crainte et de respect, qui nous appellent aussi à nous positionner, à faire aussi une sorte d'introspection devant Dieu. Alors, j'ai juste demandé à David de projeter la première diapo. Donc c'est juste mon plan qui se compose de quelques points. Donc le premier point, c'est introspection avec le trou entre parenthèses. Donc la fête des chauffards, comme son nom l'indique, a cette dimension sonore, c'est-à-dire que bien sûr on sonne, on fait résonner le chauffard, et ce qui est très intéressant, donc en hébreu c'est Yom Teruah, et Teruah veut dire cri ou sonnerie. Donc c'était un cri ou une acclamation, notamment de guerre ou d'alarme. Et donc quelque part, c'est pour nous. Donc c'est comme un appel au réveil, mais un réveil interne, et une sorte d'alarme qui nous invite à entrer en nous et à quelque part faire une introspection. Et après, donc la fête des chauffards, c'est réveille-toi. Et donc c'est quand même intéressant que cet appel au réveil, il figure dans les cycles annuels, parce que l'homme, il a tellement tendance à oublier les choses. Et là, ce sont comme des rappels pédagogiques. Attention, parfois tu peux t'endormir dans certains domaines de ta vie. Ça vient tellement vite. Et ensuite, donc, il y a ces 10 jours. C'est là où vraiment on est appelé à rentrer pleinement en nous-mêmes. Et on pourrait dire que ces 10 jours-là, c'est une période pour le chercher. Pour le chercher, avoir un cœur à cœur avec lui. Et on en a tellement besoin, parce que c'est Calvin qui disait que l'homme est un fabricant d'idoles. L'homme est un fabricant d'idoles. On peut tellement vite s'éloigner de Dieu, ou comme Mathé l'avait dit, il peut avoir parfois des dissociations, des parties de nous qui vivent un écart entre ce qu'on proclame le dimanche et ensuite ce qu'on vit à l'intérieur la semaine. Donc, introspection, ça correspond aussi à ce que Jésus nous a dit, quand il a dit, oui, mais avant de vous la retirer, la paille dans l'œil de ton voisin, retire déjà la poutre qui est dans ton œil. Ça peut être aussi parfois de la paille, ça peut être parfois des choses très très subtiles qu'on est amené à retirer. Ça peut être l'avidité, la jalousie, la peur des autres, la peur du regard des autres, ce que Mathé nous avait partagé. L'orgueil, ça vient facilement, l'orgueil, très facilement. L'apitoiement aussi, l'apitoiement sur soi-même. Et par rapport à la jalousie, on a eu dernièrement une formation ici à l'établissement Daniel, et le pasteur disait une chose très simple, il dit « Faites attention, la comparaison, elle tue. » Elle est mortifère, la comparaison. Et c'est vrai que Galates nous dit, au chapitre 6, que chacun examine ses propres œuvres. Tiens, là, c'est un peu la dimension de la fête des chauffards. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Par rapport à lui seul. Donc, le chauffard, le but du chauffard, c'est de faire quelque chose dans nos entrailles. Parce que là, j'ai vu, Thierry, tu étais devant Agnès, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû trembler en toi. Je pense qu'elle a fait sonner du chauffard. Voilà. Mais quelque part, c'est le but que nos entrailles soient remuées, elles soient secouées. Donc lorsqu'on entend quelque part le son du chauffard, c'est là où, ah, on est là, oh là là, oui, attention, je me place devant Dieu, et là on peut demander à Dieu de nous montrer ce qui empêche son travail en nous. Quelles sont les zones dans lesquelles son travail, quelque part le travail de l'esprit, est entravé. Et par rapport aux 10 jours dont j'ai parlé, on a le terme teshuvah. Teshuvah, c'est la repentance. Ça veut dire repentance, se tourner, se retourner. Il y a des zones dans nos vies qui, peut-être, ont dévié et ont besoin, hop, de rectifier le tir. Et d'ailleurs, quelque part, voilà, par rapport à Rosh Hashanah, la nouvelle année, c'est peut-être un peu ça, comme nous en janvier, ah ben maintenant je prends des bonnes résolutions, ainsi de suite, il y a un peu cette idée-là. Donc, mais quel travail en nous? Après on dit, oui, introspection, oui, c'est vague, mais je pense qu'il y a 3 axes peut-être à examiner. C'est la Bible qui dit, chacun examine ses œuvres, chacun s'examine. Peut-être briser des vieilles et mauvaises habitudes, aussi discrètes et subtiles soient-elles. Moi, un jour, j'avais aidé un responsable chrétien d'une œuvre de compassion, et j'étais choqué. C'était quelqu'un de très respectueux avec les gens, mais quand quelque chose n'allait pas, il faisait preuve de vulgarité. Il avait des propos vulgaires. Et je ne voyais pas quelque part de différence entre quelqu'un du monde et par rapport aux propos. Et là, je me dis, tiens, cette zone-là, quelque part, c'est comme si elle n'avait pas été évangélisée. C'est ce que j'appelle, là je donne un exemple, peut-être une petite mauvaise habitude à briser. Après, c'est nos manières de penser aussi, ce que j'appelle nos paradigmes, nos schémas de pensée, nos perspectives de pensée, qui parfois aussi ont besoin d'être renouvelés. Et enfin, un autre axe aussi, qui me paraît intéressant dans ce travail que le Seigneur nous demande, c'est abandonner aussi parfois des mauvaises sécurités, des béquilles fragiles que les circonstances peuvent facilement renverser, des vieilles sécurités. Et par rapport à ce travail d'introspection, c'est comme si on pouvait demander à Dieu de visiter quelque part nos 5 sens. Physique, spirituel, c'est lié. Mathé, déjà, nous a parlé de la vue, n'est-ce pas? Elle nous a dit qu'on pouvait avoir des filtres déformants. Et que parfois, voilà, on peut être peut-être très dur avec nous-mêmes et ne pas se voir comme Dieu nous voit. Ou avoir l'impression que les gens ne nous aiment pas. Et ces filtres déformants peuvent être vraiment synonymes de souffrance. Après, bien sûr, il y a toutes les addictions visuelles. De quoi tu nourris tes yeux quelque part, évidemment. Après, par rapport à Louis, de quoi tu nourris aussi tes oreilles, ok? Mais je pense que ça peut aller plus loin. Après, oui, d'accord, moi j'écoute pas de musique, tout ça, mauvaise, ok. Mais parfois, quand tu assistes à des discussions, c'est plein de calomnies, c'est de méchanceté, tu veux rester là-dedans? C'est Julien Duby qui racontait, il était un jour, il devait faire réparer sa voiture, et il était à côté du garagiste, et le garagiste, il n'arrêtait pas de proférer des paroles négatives. Il dit, moi, j'en peux plus. Et Julien s'est éloigné. Il dit, je ne peux pas rester dans cette atmosphère. Donc, faire aussi attention à cela. Et il y a un ministère prophétique qui a dit quelque chose de très intéressant. Je voudrais juste vous le citer, c'est très court, c'est par rapport au burn-out. Donc, un épuisement qu'on peut avoir. Et dit la chose suivante, vous n'êtes pas épuisé parce que vous en faites trop. Bon, bah, je pense que l'activisme, ça peut jouer aussi, d'accord ? Mais je pense qu'il n'a pas tort dans ce qu'il va dire, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement l'action. Je pense qu'on peut être dans l'action, dans l'activisme, mais en étant dans la paix. Vous n'êtes pas épuisé parce que vous en faites trop, mais parce que vous réfléchissez trop. Vous vous inquiétez trop. C'est la fameuse, comment t'as appelé ça? La sous-cyclette de Mathé. Vous vous inquiétez trop. Vous vous comparez trop. Ce pasteur qui disait, la comparaison, elle tue. Et après, il dit, le Saint-Esprit vous appelle à une détoxification mentale. C'est un peu la fête des chauffards. On est un peu là-dedans. Et il ne veut pas seulement apaiser votre esprit, il veut le renouveler pour que vous puissiez à nouveau l'entendre avec clarté. Entendre Dieu avec clarté. Donc bien sûr que le diable, lui, il veut nous mener à l'épuisement, parce que quand tu es dans l'épuisement, tu auras du mal à entendre. Et tu t'égares, tout simplement. Ensuite, il y a l'odorat. L'odorat peut nous parler aussi des atmosphères dans lesquelles tu te trouves. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a aussi... par rapport aux atmosphères aussi, où, bien sûr, parfois, on ne peut pas, quand on va à certains endroits, moi, c'est par exemple le McDo, j'aime pas y rester trop longtemps. À un moment donné, ça m'agresse. Il y a un stress, c'est quelque chose qui est, à travers cette musique rapide et les gens qui cirent, quelque chose qui m'agresse, et peut-être au-delà, j'aime pas y rester trop longtemps, mais je crois que c'est important aussi de devenir quelque part à créer une bonne atmosphère aussi autour de nous. Et ça commence bien sûr par nous, là où je me trouve. Qu'est-ce qui se dégage de moi? Quel est mon parfum quelque part? Quel est mon parfum? Le goût, bien sûr, c'est ce que je consomme. Alors là, on peut bien sûr tout de suite penser aux excès de table, ainsi de suite. Oui, mais on parle aussi des paroles de mauvais goût et de bon goût. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Alors après, vous allez dire, oh là là, mais pff, introspection, ça fait très... on est très dans... C'est un peu la mode en ce moment. Oui, regarde à toi-même. J'ai mis introspection, le trop, entre parenthèses, qui donne inspection, tout simplement, parce que on est bien sûr appelé à ne pas le faire seul. Et c'est le psaume que Luc avait aussi repris dans un des mails qu'il vous a adressé récemment. Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc c'est une inspection d'esprit. Et nous en France, quand on parle d'inspection, tout de suite on a peur. Inspection d'éducation nationale, l'inspection du travail qui débarque, on a peur. Parce que tout de suite on a peur de la condamnation. Mais le Saint-Esprit, comme on le sait, le paraclète, c'est notre consolateur, il ne vient pas pour condamner. Il peut te donner des convictions de péché, des convictions parce que le péché c'est tirer à côté, c'est rater la cible, mais pas de condamnation. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc à plus forte raison, nos profondeurs, qu'on peut peut-être même parfois ignorer. Vous savez, parce que il y a un enjeu. Quand tu fais ce travail d'introspection, oui, c'est aussi pour ton bien-être. Parce que Dieu veut aussi ton bien-être. Ça, parfois, on peut être dans l'excès inverse et l'oublier. Dieu le dit clairement aussi dans la Torah. Il dit, je t'instruis pour ton bien-être. C'est dit clairement. Mais si tu fais ce travail d'introspection, quelque part, ça doit rester un moyen. La guérison intérieure, ça ne doit pas être le but de ta vie. Sinon, tu es dans le moi. Et on est un peu dans ce courant-là de nos jours. Non. Mais simplement faire ça avec le Saint-Esprit parce que tu vas rendre service aux autres, à ton entourage. Donc c'est très altruiste finalement. Si tu le fais, si tu vois ça comme moyen de bénir ton entourage et pas comme but de ta vie. Parce que je vous rappelle quand même le but de notre vie, c'est nous avons été créés, Ephésiens 2:10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et le but, c'est qu'il est dit clairement. Donc, on a, c'est comme si, il y a des projets de Dieu, mais qui doivent être enfantés. Et donc là, il y a des luttes. Ben oui, ça se passe au niveau des entrailles. Il y a des luttes. Il y a comme une femme qui accouche, d'accord. Le travail. Il y a les contractions qui peuvent symboliser les luttes intérieures que tu as, parce qu'il y a des choses parfois qui ont un peu dévié. Mais nous sommes tous, vous êtes les femmes enceintes, nous sommes enceintes des projets de Dieu. Et je me rappellerai toujours cette petite fille qui habitait dans mon quartier, qui est venue me voir, 7-8 ans. C'était pas une famille chrétienne. J'étais assis sur le muret, elle vient me voir, elle me dit « Fabrice, j'ai rêvé que Julie, elle était enceinte. » Elle ne pouvait pas le savoir, ça ne se voyait pas. Et la chose la plus étonnante qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Mais tu sais quoi ? Toi aussi, tu étais enceinte. » Elle m'a vu enceinte. Je dis « Waouh !» Sur le coup, c'est un peu bizarre. Mais je dis « Oui, oui. » On est, quelque part, il y a ce travail-là, qui doit être, parce que les projets doivent sortir quelque part, j'ai envie de dire. Ils doivent sortir. D'ailleurs, par rapport à ça, Julie a vécu quelque chose de très fort à Annecy. Moi, ça m'a vraiment marqué. Avant d'aller à Annecy, en août, elle a eu un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu une dame qui s'appelle Aurélie, qui avait un bébé en main et qui a donné ce bébé à Julie. Donc Julie l'avait dans les bras. Et cette Aurélie, c'est une dame qui est la nouvelle directrice du collège chrétien Annecy. Il lance un collège chrétien, c'est une bonne nouvelle. Et elle me partage ce rêve. Et ensuite, quand on est allé à Annecy à la conférence fin août, là, on croise cette dame et Julie lui confie ce rêve. Et Julie, entre-temps, elle avait mobilisé les enseignants de l'établissement Daniel, parce qu'elle a dit, mais il faut leur apporter nos programmes, l'intégration biblique, pour qu'ils aient pas à commencer à zéro, pour qu'on puisse partager nos richesses. Et donc, il y a eu tout un mouvement. Et donc, on revient à Annecy. Et donc là, elle lui dit, écoute, j'ai fait ce rêve. Et cette Aurélie, comme ça, qui est comme une secousse. Figurez-vous qu'elle a fait un rêve, Aurélie de son côté, dans ce rêve, elle avait un bébé dans les bras, et ce bébé, ensuite, il était dans la foule, elle l'a perdu. Elle avait perdu ce bébé. Et donc, pour moi en tout cas, à titre personnel, je fais le lien entre les deux, pour moi c'est pas du hasard, mais quelque part, et c'est Julie quelque part qui avait ce bébé en main, parce qu'elle a cœur ce collège, mais pour moi, voilà, ce bébé, c'était ce collège, qui avait besoin d'être encore entouré, d'être pouponné par les écoles plus grandes, quoi, quelque part, plus les écoles aînées, si vous voulez. Et il y a autre chose que je voudrais aussi dire par rapport à ce travail d'inspection du Saint-Esprit, c'est, oui, c'est un travail entre le Saint-Esprit et nous, mais parfois aussi, on peut avoir besoin d'aide quand les choses sont trop lourdes. Et d'ailleurs, c'est la parole qu'il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. À cette conférence, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est l'un des pasteurs là-bas qui disait que chaque année, il y avait 9000 suicides en France. C'est terrible, 9000 suicides. Et donc à cette conférence, il y avait une triple conférence. Conférence pour enfants, conférence pour femmes, conférence pour hommes. Il y avait 500 femmes, 200 hommes. Et il disait, vous savez, parmi ces 9000 suicides, pardon, il y a 7000 suicides d'hommes. Ce sont surtout des hommes qui se suicident. Et lui disait, après, il y a certainement, c'est peut-être plus complexe que ça, mais il disait qu'une des raisons, c'est que l'homme a peut-être honte de vouloir demander de l'aide, à se rendre vulnérable. Et justement, ils ont mis l'accent là-dessus, et donc ils ont encouragé les hommes ensuite à faire preuve de vulnérabilité. Il y a des hommes qui sont venus au micro et qui ont confessé des choses très fortes. Et d'ailleurs, Jacques nous le dit, confessez vos péchés les uns aux autres, et pas uniquement aux pasteurs. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc, le fait de demander de l'aide, c'est pas du tout une faiblesse, et je le répète une nouvelle fois, on a une équipe pastorale qui se tient à votre service. Moi, je suis tellement reconnaissant pour Alain et Mathé qui sont pas là parmi nous. Mais ils sont retraités, ils pourraient se la couler douce. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est servir. Il y a bien sûr d'autres personnes dans l'équipe. Mais voilà, ils sont là, ils se tiennent à votre service aussi. Si jamais, voilà, il y a des choses trop lourdes, on est appelé à fonctionner en famille. Deuxième point. Rédaction avec un S. Alors après vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu bizarre comme titre. la fête des chauffards, et ensuite ces 10 jours-là, oui, il nous parle de livres. Il nous parle de livres, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme l'être humain, il aime la musique parce que la musique a une dimension céleste, c'est la louange qui existait toute éternité. Et ben on a la même chose avec les livres. On aime les livres, mais les livres, c'est quelque chose, c'est, on va dire, une invention, c'est une invention céleste. Il y a, moi je distingue 3 types de livres, il y en a peut-être beaucoup plus. En tout cas, je suis tombé sur 3 types de livres qui existent au niveau céleste. Vous avez tout d'abord le livre des œuvres, mais de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et il est dit dans Apocalypse, au verset 20, verset 12, et là on est devant c'est le jugement, la phase de jugement du grand trône blanc, et là il est dit, des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc c'est comme s'il y avait des livres dans lesquels on avait noté toutes les œuvres de ces personnes, donc comme un livre qui racontait leur vie, quoi, quelque part. Mais je n'ai pas lu, bien sûr, ce qui était au milieu. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, dans lequel est inscrit le nom de tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et il y a encore un autre type de livre, c'est le livre des souvenirs, très intéressant, qu'on trouve dans Malachie, chapitre 3, verset 16. C'est un passage touchant, je trouve. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et c'est dont il était question avant la filiation. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que tous les jours on écrit un livre, avec le débit de parole qu'on a. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui écrivent tout un roman, d'autres des nouvelles. Ça dépend aussi des saisons de notre vie. Moi, quand j'étais jeune, c'était certainement des pavés comme ça que j'écrivais tous les jours avec mes paroles. Là, c'est plutôt des nouvelles. Il y a des phases comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que à Rosh Hashanah, la première nuit de Rosh Hashanah, les gens, les juifs s'adressent des souhaits mutuels. Je vais vous donner juste quelques exemples de souhaits qu'ils s'adressent mutuellement. Puissiez-vous être inscrit et scellé pour une bonne année? Ou bien on se souhaite une bonne inscription et un bon sceau dans le livre de la vie. Un extrait aussi d'une prière qui est faite à ce moment-là. Ô Dieu, souviens-toi de nous pour le livre de la vie. Roi qui désire la vie, et écris-nous dans le livre de la vie en faveur de toi, Dieu vivant. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit cette aspiration aussi du peuple juif à être inscrit dans le livre de vie, quelque part. Et c'est le livre de vie de l'agneau, quoi, quelque part, dans lequel nous avons la chance d'être inscrits. Alors après, là, par rapport au livre, on peut se dire, mais est-ce que il y a au ciel un petit livre dans lequel toutes mes œuvres, toutes mes actions, œuvres dans le sens action, mes actes sont inscrites? On peut se poser la question. En tout cas, il est clair que nous, en tant que croyants, on devra passer devant un tribunal. Le tribunal de Christ. Et qui dit tribunal dit dossier ou livre, si tu veux. Et je vais lire le passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 10, où il est dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors là, on peut se dire, ah mais, ça peut nous crisper quelque part. Mais ça ne doit pas nous crisper. Vous savez, ce terme-là, tribunal, il est traduit dans le grec par bema. Et bema, ça signifie, bema c'est une estrade. Et donc c'est un extrait de l'épître aux Corinthiens. Et à l'époque des Corinthiens, vous aviez une estrade qui avait une double fonction, le bema. Ça servait effectivement de tribunal, mais ça servait aussi d'estrade pour récompenser les athlètes. Et il s'agit bien sûr de ça, parce que sinon, toute la logique des Écritures s'écroule quelque part. S'il est dit qu'on sera jugé. Non, parce qu'il est bien dit que l'Évangile de Jean nous dit que celui qui croira ne sera pas jugé. Donc là, il s'agit de récompenses, de couronnes. Et d'ailleurs, la Bible, j'ai identifié 5 couronnes. La Bible met beaucoup l'accent, le Nouveau Testament met beaucoup l'accent sur les couronnes que nous recevrons. Et c'est ce que l'athlète recevait, sur les récompenses. Troisième point, du message, résurrection. Dieu est le plus grand pédagogue de tous les temps, et nous, en tant que pédagogues, on utilise aussi ce principe simple qui est la répétition. D'où aussi cette notion de cycle dont le peuple a besoin, dont nous avons besoin, parce que notre âme a besoin de répétition. La Sainte Cène, pourquoi est-ce que Jésus, pourquoi est-ce que ça a été institué aussi? Pour nous rappeler, pour ne pas oublier. Et ça, c'est aussi une dimension forte des Écritures. Donc le chauffard, pour revenir à la fête des chauffards, c'est synonyme de résurrection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on trouve que les deux sont liés. Par exemple, il nous est dit dans 1 Corinthiens, le chauffard sonnera et les morts ressusciteront. Et il y a des rabbins qui se sont posés la question, mais pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Et une des raisons est la suivante, c'est que le chauffard nous rappelle la résurrection des morts. Et il cite Ésaïe qui dit, « Habitants de la terre, quand le chauffard retentira, vous l'entendrez. » Donc, après, par rapport à ce que je veux vous partager, je dis, mais quel est le lien? Et là, je reviens aussi à ce que Matthieu a dit, mais il y a des endroits, peut-être, de notre cœur, de notre vie, qui sont comme arides, sèches. Il y a peut-être même des rêves qu'on a enterrés, qu'on veut enterrer, qu'on veut laisser tomber. Et là, peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur veut ranimer. Mais il y a quelque chose qui m'avait touché, c'est quand Pierre-Daniel Martin m'avait dit que souvent, un rêve qu'on a passe par une mort. Lui-même, il a vécu avec la création du filet du maître. Il dit souvent, ça passe par une mort. Mais après, ça renaît. Donc, quels sont les lieux cachés qui entravent le travail de l'esprit dans nos vies et qui ont besoin d'être revivifiés quelque part, revigorés? Regardez ce que nous dit Éphésiens. C'est intéressant par rapport à la fête des chauffards. Éphésiens 5, à partir du verset 4. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça, c'est la dimension des fêtes d'automne. En tout cas, jusqu'à Yom Kippour. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et il est dit au verset 14. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Il y a peut-être des endroits qui dorment en nous. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et regardez le lien, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est en lien avec notre comportement. Le réveil, là, il est question d'un réveil, est en lien avec l'attitude qu'on a, toi et moi, chaque jour. Et Teshuva, donc c'est ces fameux 10 jours que où on est appelé justement à se poser devant Dieu, à poser les choses devant Dieu, à poser notre cœur devant Dieu. Teshuva, ça signifie non seulement se retourner, donc se repentir, changer de pente, mais ça veut dire aussi printemps. Je trouve ça très intéressant. Et le printemps, comme vous le savez, c'est aussi synonyme de résurrection. Et le printemps, bien sûr, est lié à la joie. Et j'en viens au point suivant. Jubilation, c'est la joie, il fallait bien que ça rime. Et Rosh Hashanah. Alors pourquoi est-ce que maintenant les Juifs parlent plutôt de Rosh Hashanah? Tout simplement, ça vous le savez aussi, lorsque les Juifs sont revenus de l'exil, ils avaient oublié la Torah. Ils ont été en exil, il y a peut-être des zones de ta vie qui sont peut-être aussi en exil, des zones de ma vie. Et lorsque Néhémie, donc, il a fait reconstruire les murailles, il a voulu établir un nouveau foyer juif national sur les bases de la Torah. Donc le premier jour du septième mois, qui correspond à la date de la fête des chauffards, donc il a fait dresser une estrade et la Torah a été lue à tout le peuple. Et là, il y a eu un phénomène de réveil, comme la fête des chauffards, et de reconsécration des gens. Et d'ailleurs, la fête des chauffards, c'est Yom Teruah. Teruah, je vous l'ai dit, ça veut dire sonnerie, cri, acclamation, de guerre, d'alarme. Et vous savez que ça veut dire aussi un cri de joie. Teruah, c'est un cri de joie. L'autre terme dont j'ai parlé, Teshuvah, ça va ensemble. Ça commence par un réveil. Et ensuite, ça continue avec un examen, quelque part, de soi-même, avec le Saint-Esprit. Donc, c'est la Teshuvah et la repentance. Il est très important de réaliser aussi que la joie, ça doit être, quelque part, le résultat de la repentance. Parce que lorsqu'il y a des zones dans ta vie qui sont éloignées de Dieu, et lorsqu'elles se rapprochent de Dieu, mais c'est comme s'il y a une partie de toi qui s'éloigne de l'obscurité, qui se rapproche de la lumière, et ça, ça doit être célébré. Ça doit être célébré. Donc la joie, elle a toute sa place. Oui, ce sont des jours un peu austères, mais qui doivent aussi être remplis de joie. Il y a les deux. Et non seulement la joie, elle doit être le résultat de processus de repentance, mais la joie, elle doit aussi être, quelque part, le moteur de ce temps de repentance par lequel on doit passer. Ça doit être le moteur. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'Épître aux Romains nous dit que c'est la bonté de Dieu, chapitre 2, verset 4, qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu, le fondement. Et après, on peut se dire, bonté de Dieu qui pousse à la repentance, le terme pousser, c'est une interprétation subjective. Certains c'est ça, et d'autres, oh là, la bonté, ça me pousse, alors je suis propulsé, c'est un peu violent. Et je voulais un peu voir l'étymologie, et en grec ça veut dire ago, et j'étais très surpris par ce que j'ai trouvé. Ago, donc, ça veut dire mener, oui, mener, amener, ce que je préfère à pousser, mais ça veut dire, notamment, mener en tenant en laisse. Vous pouvez dire, oh mais c'est négatif, moi je trouve ça excellent. C'est-à-dire, c'est la bonté de Dieu qui te tient en laisse et qui t'amène à repentance. Mais la bonté, elle te tient en laisse. C'est-à-dire, tu ne dois pas la lâcher. Ça doit être ton moteur, la bonté de Dieu. On doit tenir ferme dans cette grâce, on doit être attaché littéralement à la bonté de Dieu. Donc la repentance, elle se fait dans le cadre de cette bonté. Et ça, c'est extrêmement important. Et je parlais donc de Néhémie, donc la lecture se passe dans le chapitre 8 du livre de Néhémie. Et donc là, il est dit, oui, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et ensuite, il y a Néhémie qui prend la parole et il dit, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Moi, je peux imaginer, je me mets à leur place. Donc, ils s'est éloigné de la parole. Et là, toute la journée, on leur dit la parole. Et là, dans ton cœur, introspection, là, t'es à côté de la plaque. Là, t'étais à côté de la plaque. Là, t'étais à côté de la plaque. C'est comme si le livre de ta vie était en décalage absolu avec le livre de la loi. Et là, j'aime cette réaction de Néhémie, des sacrificateurs. Ils leur dirent, verset 10, « Allez manger des viandes grasses. » Il peut dire, allez, pauvres pécheurs, maintenant vous allez souffrir, pénitence, allez. Allez manger des viandes grasses. Et ça vous fait penser à quoi? Les viandes grasses, le veau gras. C'est Luc 15. Que dit le père lorsque le fils perdu revient? Mettez-lui un anneau au doigt. Amenez le veau gras. Pareil. Amenez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous, nous dit Luc 15, 20. On est dans la joie. On est dans la joie. Et Néhémie leur dit, ne vous affligez pas, en hébreu, atzav, ça veut dire même aussi torturer, ne te torture pas. Parce que parfois ça peut aller aussi long. Non. Et là, il explique pourquoi Néhémie. Pourquoi on ne doit pas se torturer ou s'affliger? Ne vous torturez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ouais, on revient de nouveau à ça. Et ça, c'est au cœur quelque part de ce qui a produit ensuite Rosh Hashanah. Un nouveau départ en commençant par la joie. Et je voulais creuser, je me dis, tiens, la joie de l'Éternel sera votre force. Parce que c'est très offensif aussi, la force. Oh, ça va être ma force. Là je suis bon, je suis équipé, je suis un guerrier, c'est une arme offensive. Après, le terme c'est maoz, pardon. Et maoz peut être traduit par force, mais aussi par refuge ou lieu de sécurité. D'ailleurs, quand David dit, De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est Maoz. Donc on peut aussi le dire que la joie de l'Éternel sera notre soutien. Moi j'aime beaucoup cette dimension-là. Ce sera notre lieu de sécurité. Restons dans cette joie de l'Éternel. Je crois que c'est mon dernier point ensuite, le point numéro 5, qui s'intitule Transformation en vue d'une transmission. Donc, on était à Annecy, et Annecy met beaucoup l'accent sur la guérison intérieure, notamment pour les personnes qui ont vécu des abus, de tout ordre. Et ils ont mis en place beaucoup d'écoles. École des parents qui va démarrer, école pour les hommes qui va démarrer, école des couples, école des femmes. Et il y a des personnes qui leur ont reproché de faire preuve de nombrilisme. Ils disent « Ouais, mais c'est tout le temps le moi, le moi, le moi. » Et eux, ils ont dit, et je trouvais ça très intéressant, ils ont dit « Vous savez, nous, notre but, c'est pas de vendre des formations, de vendre des compétences. Mais nous, notre objectif, c'est de transmettre des semences d'ADN. » Parce que l'objectif, oui, un des objectifs c'est que tu sois bien, ça il ne faut pas l'oublier, l'Éternel nous instruit pour notre bien-être, mais il y a un objectif encore qui va au-delà, c'est que tu puisses ensuite, toi en étant restauré, que tu puisses transformer. Parce qu'on est appelé à se multiplier, on est appelé à transmettre. Il y a ce devoir de transmission qui est là, et on le sait très bien, on transmet non seulement par nos paroles, mais avant tout par notre vie, par notre comportement. C'est comme ça qu'on transmet. Les personnes, elles ressentent notre vie quelque part, ce qu'on dégage, plus que nos paroles qui peuvent être parfois belles, mais qui peuvent parfois un peu être éloignées d'un comportement qu'on peut avoir, et qui peut être malheureusement un peu récurrent, d'où cette nécessité aussi de passer, j'ai envie de dire, par cette inspection du Saint-Esprit, à laquelle Dieu nous invite. Ce qui m'a frappé aussi, mais regardez, juste pour illustrer mon propos, c'est Pierre qui parle des épouses et il leur dit si votre mari n'obéit pas à la parole, ben qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre. C'est par la vue, en voyant votre manière de vivre, sans parole. C'est ça qui. Notre vie parle. Notre vie parle. Donc cette transmission, on n'est pas seul et on est dans une société individualiste, vous le savez, mais je pense dans la pensée biblique, l'intergénérationnel est super important. C'est-à-dire que moi je suis là pour transmettre aussi quelque chose à mon fils, qui le transmettra à son tour à d'autres. On est là pour transmettre. On est là pour transmettre. Et ce qui m'a touché, c'était à la Pentecôte, dans le livre des Actes, c'est lorsque les gens sont touchés, ces 3000 personnes... Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. » Mais après, je ne sais pas si vous a frappé, moi ça m'a frappé. « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. » Waouh. Vous voyez, et nous on est souvent dans le salut individuel et tout ça, bien sûr il y a cette dimension. Mais Pierre qui dit « La promesse elle est pour toi et pour tes enfants. » Moi en tout cas je l'interprète de la manière suivante, c'est pas seulement tes enfants de la génération suivante, mais... les enfants, de tes enfants, et ainsi de suite. Donc pour moi, l'évangile, ça va, la puissance de l'évangile, elle va au-delà de toi quelque part. C'est notre responsabilité de transmettre, notre responsabilité d'avancer dans la sanctification pour notre bien-être aussi, mais pour le bien-être de notre entourage en vue d'une transmission. Et je voudrais vous montrer une petite vidéo qui définit le terme juif. Par contre, voyez-le aussi de manière symbolique, par extension, j'aurais envie de dire que cette petite vidéo, elle s'applique à toi et à moi, par rapport à cette notion de livre et de transmission. Voilà, donc voilà de manière allégorique. Voilà, si ça va pour toi, David. Donc, on a en tant que parent un livret de famille, et j'ai réalisé aussi, dont on prend soin pour ne pas le perdre, mais qu'on a aussi un livret de famille spirituel. Parce qu'on est appelé à léguer des héritages, à la fois terrestres, oui, mais aussi spirituels. Et je vais arriver à ma conclusion. Après, je vais demander à Agnès de sonner du chauffard. Et comme je l'ai dit avant, les rabbins qui sont posés la question, mais pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Et je voudrais juste vous donner quelques motifs, parce que j'ai trouvé intéressant à titre personnel. Ils disent par exemple que le cri perçant du chauffard sert à réveiller nos âmes endormies, tombées dans la complaisance. Et la complaisance, je vous avoue que je voulais vraiment savoir ce que ça voulait dire exactement, et la définition, je la trouve très intéressante. Disposition à s'accommoder au goût, au sentiment d'autrui pour lui plaire. En gros, c'est faire des compromis. Et c'est Romain 12, je crois, qui nous dit « Ne vous conformez pas au moule du monde. » Pas de compromis avec l'esprit du monde, quoi, quelque part. Ensuite, ils disent que le chauffard nous rappelle les cris de guerre de nos ennemis qui ont pénétré dans le temple de Jérusalem et qui l'ont détruit. Et ils disent aussi que le chauffard préfigure le jour du jugement. Parce que le prophète Sophonie dit que ce jour sera comme un jour de chauffard et d'alarme contre les villes fortifiées et les hautes tours. Et quand j'ai entendu ça, tiens, un chauffard d'alarme contre les villes fortifiées et les hautes tours, j'ai pensé aussi aux hautes tours de raisonnement qu'on peut aussi avoir, à ces forteresses de pensée aussi qu'on peut avoir, qui sont peut-être subtiles, et qu'on est appelé à abattre avec son esprit. Et enfin, les rabbins disent que le chauffard leur donne l'espoir, parce que ça évoque le grand chauffard qui rassemblera le peuple juif dispersé aux quatre coins de la terre au moment de la venue du Messie. Ce qu'ils attendent. Et effectivement, le Seigneur lui-même, au son du chauffard, descendra du ciel. Effectivement, leur espoir, l'espérance ne trompe pas, nous dit la parole, et leur espérance à eux ne sera non plus pas, ils ne seront pas déçus. C'est Matthieu qui nous dit, hein, Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec le chauffard et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Alors le chauffard, instrument de musique un peu folklorique, je suis tombé sur un passage qui, waouh, j'avais jamais vu auparavant, parfois ça fait tilt. Zacharie 9, verset 14, où il est dit « L'éclair, l'Éternel, pardon, au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette » et en hébreu c'est « chauffard ». J'ai regardé l'étymologie. « Le Seigneur lui-même sonnera du chauffard ». Vous saviez ça? Vous aviez lu ça? Ça n'avait jamais tilté. Et le psaume 47, 6 nous présente aussi Dieu qui s'élève avec des cris de joie et avec la voix du chauffard. Dieu monte au milieu des cris de triomphe de joie, dont j'ai parlé avant. L'Éternel s'avance au son du chauffard. C'est le terme chauffard. Alors maintenant, je voudrais vous proposer quelque chose. Un petit temps. Vous allez être un peu, voilà, vous aurez un petit cœur à cœur avec le Seigneur. On a encore un tout petit peu le temps. En gros, pour résumer de manière très très approximative, c'est ces fêtes d'automne qui vont aboutir donc à Yom Kippour, le jour des expiations, qui est bien sûr une ombre du sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Ben, la fête des chauffards, c'est comme un réveil, c'est un appel à dévoiler les petits chevaux de Troie qui peuvent se trouver en nous. Et qui peuvent parfois nous rendre la vie un peu dure, des petits ennemis intérieurs. Et après, vous dites, oh, mais tu vas peut-être un peu fort, mais que nous dit 1 Pierre 2,11 ? Il vous dit, bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des convoitises charnelles qui nous font la guerre, qui font la guerre à notre âme. C'est pour ça, avant, il y avait cette image du feu, et moi, la prière que j'avais, c'est, Seigneur, consume tout ce qui est charnel. Et ça commence par moi. Consume tout ce qui est charnel, s'il te plaît, Seigneur. Embrase, consume ce qui est charnel. Je voudrais qu'on prenne un chant. On va juste chanter une partie de ce chant. C'est un chant qui a été chanté par les 200 hommes à la conférence d'Annecy. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché et qui entre dans le cadre de ces temps, de ces fêtes d'automne. Et juste avant vous donner le programme, là on était beaucoup oui dans le moi, donc après l'heure du temps de jeûne et de prière, là on va se décentrer de nous-mêmes, mais là maintenant on va se centrer sur nous-mêmes. Et je vais juste vous proposer une étape, et la deuxième étape, je vous propose de la faire chez vous à la maison. La première étape, c'est à travers ce chant, c'est proclamer une prière. Vous allez voir les paroles. On va d'abord les écouter. Moi, je les ai un peu modifiées parce qu'il y avait une parole qui me gênait un peu. Et c'est proclamer, faire ces proclamations, ces prières, adresser ces prières à Dieu qui sortent de votre bouche. Un peu comme un Daniel. Un Daniel qui avait, alors que l'exil allait s'arrêter, il priait pour avoir, pour que le peuple ait la faveur de Dieu. Et comment est-ce qu'il procède? Il dit, je confessais, je cite la parole, hein, au chapitre 9. Je priais, je confessais mon péché. Il commence par lui. Alors que je pense qu'il y avait certainement plus terrible que lui. Il commence par lui, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Parce qu'on pourra aussi, voilà, prier pour notre pays plus tard. Mais il commence par lui. Et qu'est-ce qui se passe quelques versets plus tard? Il y a l'ange Gabriel qui lui apparaît, qui lui dit, lorsque tu as commencé à prier, à peine t'as dit quelques mots, t'as commencé à prier, t'avais même pas fini ta prière, la parole est sortie. Là, il y a une parole qui est sortie et je suis venu te l'annoncer. Et ce que je voudrais vous proposer, voilà, vous encourager à faire, donc c'est proclamer et s'attendre à Dieu, s'attendre à ce qu'il réponde. Et ensuite, au moment opportun, ce sera à vous de voir, c'est de vivre la dimension de Matthieu 6:6. Quand tu pries, va dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu auras un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Là, tu pourras écouter. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur qui va dans le secret te le rendra. C'est une promesse de la parole. Hein. Ton Père, il sera là dans le lieu secret avec toi et il te le rendra. Il te le rendra. Alors, est-ce qu'on peut prendre, David, donc juste un extrait, je crois que je t'avais dit à partir de la 6 minutes 40. Voilà, lisez les paroles et après on va les chanter, on va juste varier un peu la strophe. Ça, c'est l'esprit des fêtes d'automne. Faire la place au Seigneur et dégager ce qui n'est pas de lui. C'est bon, David. Donc là, je pense que vous êtes imprégné de la mélodie. Donc je vais, dans quelques instants, vous proposer juste une petite variante. C'est juste là, la phrase fait trembler les murs de ma religion. À titre personnel, ça me gêne un peu parce que le but, c'est pas d'ériger des murs. Mais ça n'engage que moi. Agnès, tu peux te mettre avec le chauffard au fond de la salle, s'il te plaît. On va faire retentir le chauffard. Alors, et après, on va entonner ce chant. Vous, voilà, c'est une prière que vous allez chanter quelque part. Par rapport au chauffard, donc il y a plusieurs types de coups, des séries comme ça, saccadées, 9 coups, 3 coups. Mais il y a un long coup, un long son qui ressemble comme un long sanglot. Et les rabbins disent que cet appel du chauffard, il ressemble à la souffrance d'un enfant qui aspire à être réuni avec son père. Et j'ai envie, voilà, j'ai demandé à Agnès d'opter pour ce son-là, parce que bien sûr on est près du père, mais il y a peut-être des zones qui sont non évangélisées en nous et qui sont encore éloignées du père. Et quelque part, le cri, ce qu'on va chanter, ce qu'on va proclamer, c'est « Seigneur, que tout mon être, je veux pas de dissociation, tout mon être, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de mon cœur, il retourne à la maison, quelque part. » Ouais. Donc tu peux y aller, Agnès ? Est-ce que tu peux revenir donc peut-être à 6 minutes 30 donc, et peut-être mettre un peu moins fort pour qu'on ait juste la mélodie et qu'on puisse donc chanter la strophe. Thank you.
notre apparence, si vous voulez. Mais ce n'était pas notre vrai nous. C'est exactement notre apparence, vous voyez, comme des sortes de figurines. Et c'était en train de s'effriter, tout ça. Et il y a notre vrai nous, c'est-à-dire l'homme spirituel, créé de toute éternité par Dieu, qui sortait de ce sort de moule-là, vous voyez, qui nous emprisonnait. Le moule s'effrite, et il y a le vrai nous qui sort dans une beauté, une envergure, une dimension, une largeur, quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est en train de d'émerger, et je crois que c'est un processus dans ce que tout ça partagé Fabrice, dans tout ce qui est ces jours devant nous, ces fêtes d'automne, tout ça, il y a quelque chose d'énorme qui, voilà. Alors acceptons, et oui, on dit oui, oui, oui Seigneur, que ce processus d'effritement des fausses images de nous, des fausses perceptions, tout ce qu'a apporté Mathieu la semaine dernière, Fabrice aujourd'hui, ben, Seigneur fais-le, et on veut être cet homme que tu as prévu de toute éternité qu'on soit, chacun de nous individuellement, mais aussi corporativement.
Chante, je fais de la place pour toi. Je voyais Abraham monter sur la montagne avec son fils Isaac, et Dieu qui lui demandait son fils, le sacrifice de son fils. Et vous connaissez l'histoire. Au dernier moment, un bélier a été pris par les cornes, et le chauffard nous parle aussi de cette corne de bélier, du sacrifice à notre place. Il a pris notre place. Donc le chauffard nous parle du sang de l'agneau, du sacrifice, de la mort et de la résurrection aussi, mais du sacrifice de Jésus. Et au milieu de nous, nous sommes tous avec des Isaacs aussi. De temps en temps, il y a dans ce temps des sacrifices. On t'offre en sacrifice, Seigneur. Ce qui nous est cher, mais ce que tu nous demandes. Et on te l'offre. Et rappelons-nous que Dieu est celui qui pourvoit à la place. Merci Seigneur, on te donne, on fait la place pour ce que tu désires, et on dit oui Seigneur, et merci pour ce chauffard qui nous rappelle l'agneau, le bélier qui a été pris et qui est mort à notre place. Dieu qui pourvoit, merci de pourvoir pour chacun Seigneur, pour chaque œuvre. Et tout à l'heure pendant la vision de notre frère par rapport à ce feu, je rappelle qu'ici nous sommes sur les terres de l'établissement Daniel, les compagnons de Daniel étaient dans le feu, et dans ce feu il y a eu rien qui a brûlé, rien qui a consumé. Ça me parle un peu de cette vision pour nous tout à l'heure, mais qui est aussi pour cet établissement. Alors merci Seigneur, parce que au milieu du feu tu es au milieu de nous, et merci parce que tu pourvois. Merci Seigneur. Amen.
Par rapport à ce que tu as vu, Anne, moi, pendant la Sainte Cène, je ne savais pas si j'allais le partager, mais je pense que c'est bon. J'ai vu que le Seigneur nous, quand je mangeais le pain, j'ai eu cette image d'un homme qui était bâti par la parole. Et je voyais des versets qui c'est comme un dessin avec des versets et des paroles, quoi. Et je voyais que le Seigneur nous bâtissait par sa parole, parce qu'il a tout créé par sa parole, et on est en création par sa parole. Voilà.
Ce culte, j'aimerais qu'on prenne juste à deux reprises ce chant en guise de proclamation personnelle juste avant de terminer.
Pour faire tout ce que tu désires. sais.